franceinter.fr. La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Elles empoisonnent les coquillages, elles tuent les poissons, elles rendent malades certains baigneurs. Ce sont les efflorescences d'algues toxiques, ou HAB en anglais. C'est l'objet d'un rapport de l'UNESCO paru vendredi et qui dresse le premier bilan mondial des espèces et de leur lieu de vie. On en parle avec vous, Philippe Hesse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IFREMER, responsable du groupement de laboratoire Phycotox. Et puis dans ce studio avec nous également pour commenter cette publication, Hervé Kempf, notre partenaire pour reporter.net comme tous les lundis. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Alors les micro-algues, Hervé, qu'il ne faut pas confondre avec les macro-algues, hein, ces algues vertes qu'on connaît bien par exemple malheureusement en Bretagne.
Voilà, tout à fait. Et ce sont les marées vertes dont on parle beaucoup, qui ont tué des sangliers, qui avaient tué un cheval 2009, ouais. Et qui en septembre dernier a manifestement été la cause du décès d'un jogger qui courait dans ses vasières. Eh bien non, ce ne sont pas de ces algues vertes dont nous allons parler aujourd'hui, mais d'algues bleues, ou plus précisément des bactéries, des cyanobactéries même. Ce sont des êtres vivants depuis 3,8 milliards d'années, sans doute parmi les premiers êtres qu'on ait identifiés avec certitude. Elles comptent 7500 espèces. Elles ont aussi des bonnes qualités, en quelque sorte. Elles produisent de la photosynthèse, enfin elles sont à la source de la photosynthèse, entre autres. Mais elles pullulent de plus en plus, elles se groupent et font des efflorescences dans les rivières, dans les lacs ou au bord des côtes. Et dans ces cas-là, elles libèrent des neurotoxines qui ont des effets néfastes pour les baigneurs, par exemple, les pêcheurs, etc. Et dans l'actualité, le mois dernier, dans le Béarn, 14 lacs ont dû être interdits à la pêche et à la natation. Dans l'Eure, à Brionne, on a fermé aussi pendant cet été la base de loisirs. La Vilaine, tout récemment, à Rennes, est infestée par ces algues bleues, ces cyanobactéries, et dans le Gers, le lac du Lizet est lui aussi interdit à la pratique de toute activité nautique. Donc c'est un vrai problème, et le rapport de l'UNESCO fait un point très utile sur ce phénomène qui est mondial.
Au salé comme au doux, hein, du coup,
Axel. Oui Philippe, est-ce qu'on entend peu parler de ces efflorescences d'algues toxiques? Pourtant, quand on lit le rapport, on découvre qu'elles coûtent 900 millions d'euros par an à l'Europe. À quoi correspondent les dépenses?
Effectivement, ces algues qu'on traite là sont essentiellement les algues marines. Et donc ce chiffre cité porte essentiellement sur les effets des algues nuisibles et toxiques marines. Donc ça peut être des effets sur la pisciculture, donc les mortalités de poissons, ça peut être en relation avec la mortalité des cheptels conchylicoles. Ça peut également comprendre des effets, des prix que ça coûte au système de santé publique quand c'est les personnes qui tombent malades suite à la consommation de poissons ou de coquillages contaminés.
Et concrètement, ces algues toxiques, on peut les voir dans l'eau? Elles ressemblent à quoi?
Ce sont des micro-algues microscopiques, donc on ne peut pas les voir en tant qu'organisme. C'est ça qui les diffère, en fait, qui les distingue des algues vertes, hein, qu'on voit très facilement à l'œil nu. Parfois, même microscopiques, elles peuvent atteindre des densités qui permettent de voir une coloration de l'eau. On parle alors d'eau rouge, d'eau verte ou d'eau brune. Par contre, les organismes même sont très très petits, donc c'est de l'ordre de 20 microns, hein. Donc on peut pas les voir en soi. Et aussi à noter, même si l'eau n'est pas colorée, elles peuvent atteindre quand même des densités qui rendent les coquillages suffisamment toxiques pour que nous on puisse tomber malade en mangeant les coquillages.
Quelles sont les espèces qui sont connues pour être dangereuses autour de nos côtes françaises?
Autour de nos côtes françaises, il y a un coupable qui apparaît pratiquement tous les ans, c'est le Dinophysis. C'est un dinoflagellé qui produit l'acide oxalaïque, donc une toxine, une fois accumulée dans les coquillages, devient une toxine diarrhéique. Donc on attrape des gastro-entérites en mangeant les coquillages contaminés. Mais on a aussi des efflorescences d'Alexandrium. Par exemple, en rade de Brest, en 2012, on a eu des concentrations de cet organisme qui ont provoqué l'accumulation de toxines dans les coquillages qui auraient potentiellement pu tuer des personnes si le système de surveillance ne les avait pas captées.
Philippe S., ces micro-algues, certaines sont toxiques et évidemment posent problème, mais la plupart, quand même, il faut le rappeler, sont inoffensives et même bénéfiques à bien des égards pour l'océan et l'environnement, hein.
Tout à fait. Dans un premier temps, déjà, les microalgues produisent la moitié de l'oxygène que nous respirons, hein. Donc directement pour nous, très très important.
Bien sûr.
Mais ils sont aussi à la base de la chaîne alimentaire des océans. Donc les microalgues nourrissent les copépodes ou les bivalves. Hein. Les copépodes sont mangés par les poissons et après nous, on mange les coquillages, les bivalves, le poisson. Donc c'est tout à fait bénéfique pour nous.
Hervé Kempf.
Alors cette prolifération des cyanobactéries est due au rejet excessif d'azote et de phosphore. Quel est le rôle de l'agriculture dans ce phénomène ?
Alors il y a des apports en nutriments qui sont tout à fait océaniques, hein. Des fois ça peut venir de l'océan profond, mais en zone côtière il peut y avoir également les rejets anthropiques qui contribuent. Hein. On a travaillé en France par exemple énormément sur la réduction du rejet de phosphore avec les stations d'épuration, en contrôlant les fermes de cochons, etc. Par contre, réduire le rejet de nitrate reste un défi majeur, parce que le nitrate, c'est vraiment le nutriment par excellence qui est utilisé dans l'agriculture, et donc très très difficile à diminuer pour un pays agricole comme la France.
On est capable de prédire à l'avance quand un bloom, en anglais, une efflorescence, va avoir lieu quelque part ?
On peut sûrement dire ou prédire les probabilités qu'il y ait une efflorescence, parce que on a déjà des modèles en place qui permettent de voir le rejet des nutriments, par exemple fluviaux, qui se prédisent par la météo, hein. Donc on a déjà une possibilité de prédire à l'échelle de la météo, genre 5 jours à l'avance. Et après, avec des phénomènes majeurs globaux comme le changement climatique, on peut prédire aussi que la probabilité d'engendrer des efflorescences d'un certain type peut augmenter en fonction de l'augmentation de la température de l'eau.
Là, on dresse un premier bilan des espèces et de leur géographie. Est-ce que ça veut dire que maintenant on va pouvoir s'en protéger, les combattre ? Qu'est-ce qu'on fait avec ce bilan ?
Ben, ce bilan servira à mettre en garde les autorités déjà, parce que le phénomène étant essentiellement un phénomène naturel, on change pas les océans, mais par contre on peut augmenter la vigilance à travers la surveillance. Donc essentiellement mettre en alerte les autorités qui sont responsables de la surveillance des coquillages et des côtes, donc améliorer ce système-là.
Est-ce que plus d'algues dans l'océan, ça veut dire plus de CO2 capté dans l'atmosphère ou depuis l'atmosphère ?
Certainement, pour les microalgues en général, elles constituent un tampon par rapport au gaz à effet de serre, donc le CO2 entre autres. Hein. Donc certainement, plus de microalgues il y a, plus il y a une possibilité de capter du CO2. Les Américains ont poussé ça déjà à jouer un peu aux apprentis sorciers, voir est-ce qu'on peut pas fertiliser l'océan pour justement capter plus de CO2. Mmh. Ça reste encore à l'échelle expérimentale, mais c'est certes, on change notre planète de toute manière.
Merci beaucoup en tout cas Philippe Hesse pour vos précisions autour donc de ces micro-algues et à l'occasion de ce rapport paru vendredi, rapport de l'UNESCO et qui dressait le premier bilan de ces espèces et de leur lieu de vie. Merci également à vous avec Kempf. On retrouve un article sur la question sur reporter.net j'imagine.
Tout à fait, comme tous les mardis.
Et on se retrouve lundi prochain. À demain Axel.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le lait du diable de Tasmanie qui serait efficace contre les bactéries qui infectent les hommes, en essayant de comprendre comment les petits diables de Tasmanie, bien au chaud dans la poche ventrale de leur mère, résistaient aux nombreuses agressions du monde extérieur. Les chercheurs ont découvert que le lait, justement, de leur mère contenait 6 peptides antimicrobiens particulièrement efficaces. Le lait humain n'en contient qu'un seul. Testé ensuite sur un échantillon de 25 bactéries et champignons pathogènes pour l'homme, le lait est venu à bout d'une majorité d'entre eux. Un espoir donc nouveau dans la lutte contre les maladies infectieuses, mais aussi contre les bactéries multirésistantes. Un fossile de poisson nous raconte l'histoire de l'évolution des mâchoires dans le monde animal. Ce fossile d'un poisson nettoyeur ou mangeur de boue, vieux de 423 millions d'années, est en train de littéralement changer la compréhension de cette caractéristique anatomique indispensable qu'est la mâchoire. Long d'une trentaine de centimètres, ce poisson possède en effet une mâchoire en 3 parties caractéristiques des vertébrés terrestres, y compris des humains. Une découverte qui vient remettre en cause de nombreuses théories sur l'évolution beaucoup plus tardive des mâchoires inférieures des vertébrés. Une vue d'artiste du mangeur de boue est visible sur la page Facebook de la Tête au Carré. Et puis on termine dans le monde de l'invisible et du tout petit avec les photos lauréates du concours Small World, décerné par Nikon chaque année. Le regagnant est un embryon de poisson zèbre de 4 jours seulement qui ne semble pas très content d'être photographié, mais qui arbore de vives couleurs violettes et rouges. Parmi les autres photos magnifiques et microscopiques que vous retrouvez en lien sur le Facebook de l'émission, les minuscules dentelles jaunes fluo d'une bouse de vache et les cristaux d'agate comme vous ne les avez absolument jamais vus.